question bien sérieuse pour vous. Est-ce qu'un croyant peut s'associer à des non-croyants? La parole de Dieu va nous donner une réponse salutaire pour tous les enfants de Dieu, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. J'aimerais encourager tous les croyants à bien écouter les réponses que la Bible va nous donner aux questions qu'on va lui poser aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas des croyants, je crois que vous allez quand même trouver le sujet de cette émission fort intéressant. Alors voici nos questions. Est-ce qu'un chrétien doit se séparer des habitudes pécheresses du monde? Est-ce qu'une personne croyante devrait épouser une personne non-croyante? Devons-nous nous associer de manière permanente à une personne dont nous n'approuvons pas la manière de faire les choses? Est-ce qu'un croyant peut s'associer à des non-croyants? Est-ce qu'il peut faire des ententes avec les idoles? Pouvons-nous nous croire séparés du monde sans l'être? Quel témoignage est-ce qu'un croyant laisse dans la pensée des gens quand son comportement laisse à désirer? Est-ce que Dieu discipline ses enfants quand ils vivent comme les gens du monde? Comment Dieu s'y prend-il pour nous traiter comme des fils et des filles? Demeurez à l'écoute, on est sur le point de recevoir tout un enseignement en réponse à nos questions, et c'est par la bouche du pasteur Régent Joly qu'on va entendre la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Oui Seigneur, c'est ta parole qu'on va entendre encore aujourd'hui. Quelle grâce tu nous fais, merci pour la liberté qu'on a de l'entendre et de la mettre en pratique. Enseigne-nous aujourd'hui, touche nos cœurs profondément. On s'attend à toi Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que la responsabilité d'évangéliser incombe à tous les chrétiens. Ce n'est pas le berger qui produit des moutons ou des brebis, mais des brebis qui produisent des brebis. De plus, nous devons nous demander si notre conduite donne de la crédibilité à notre message. Personne ne doit pouvoir pointer un doigt accusateur vers un ouvrier de Dieu et avoir raison de le faire. Nous avons vu de nombreux items qui caractérisent le ministère d'un homme de Dieu. Premièrement, il fait face à la souffrance physique. C'est le cas de Paul et de son équipe missionnaire. C'est le cas de nombreux chrétiens dans certains pays qui ne connaissent pas la liberté de religion. Si nous, nous sommes protégés par la constitution de notre pays, ce qui nous épargne de la souffrance physique, nous éprouvons cependant de la souffrance morale. Ce ne sont pas les accusations, la médisance et les calomnies qui manquent. Cependant, Dieu veille sur les siens et il les console dans toutes ces choses. Le ministère chrétien est rempli de nombreux paradoxes. Honneur et ignominie, bonne et mauvaise réputation, accusé de mentir pour avoir dit la vérité, à la fois connu et inconnu, mourant, quoique vivant, châtié mais sans périr, se réjouissant dans la souffrance, à la fois pauvre et riche. Nous sommes appelés à proclamer fidèlement sa parole et à manifester l'amour de Dieu. Il semble que Paul parle avec des larmes aux yeux dans le texte que nous allons étudier aujourd'hui. Son cœur s'attendrissait lorsqu'il était question des personnes qui s'étaient converties sous son ministère à Corinthe. Ils sont de jeunes chrétiens, des chrétiens encore charnels, mais il les aimait. Il semble que son cœur soit meurtri lorsqu'il s'adresse à eux dans ce chapitre ainsi que dans le suivant. Chers amis, débutons notre lecture. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 11 à 13. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Servir Dieu nous coûte quelque chose. Paul ouvre son cœur rempli d'amour pour les Corinthiens et il cherche à attiser leur amour pour lui. Mais il semble aussi que Paul ait suscité de la haine dans le cœur de ceux qui rejetaient Dieu et sa parole, et qui s'opposaient à ceux qui aimaient Dieu et sa parole. Nous avons vu qu'il en fut ainsi au cours de l'histoire de l'Église, et que c'est encore vrai aujourd'hui. Si vous tenez ferme pour Dieu, vous verrez qu'il vous en coûtera quelque chose. Nous sommes maintenant rendus à une portion importante des Écritures. C'est une section que l'on a souvent mal interprétée et dont on a aussi très souvent abusé. Certains présentent ce texte sous un jour froid, intransigeant et sans amour. Pourtant, les paroles de Paul proviennent d'un cœur tendre qui aimait les croyants de Corinthe et un cœur attristé parce qu'il se faisait du souci à leur sujet. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le chrétien doit se détacher de l'idolâtrie. Paul demande aux Corinthiens de se détacher entièrement de l'idolâtrie. Ils doivent abandonner les péchés de la chair. Ils doivent se séparer de l'attitude impie du monde. Aujourd'hui, nous parlons de chrétiens séparés du monde. De nombreuses personnes affirment être des chrétiens séparés, alors qu'en fait, ils sont très charnels. Lorsque Dieu a donné sa loi à Moïse, il la destinait à une société agricole. La loi interdisait d'atteler un bœuf et un âne à la même charrue pour labourer un champ. En fait, deux animaux de force inégale seraient placés sous le même joug. Comment deux personnes sont-elles placées sous le même joug? L'un était un animal pur et l'autre un animal impur. Ici, Dieu parle aux croyants et il leur dit de ne pas se placer sous le même joug qu'un incroyant. Comment deux personnes sont-elles placées sous le même joug? Elles le sont lorsqu'elles s'unissent pour gérer une entreprise commerciale, pour former un partenariat, pour un mariage ou pour toute entreprise de longue durée. Se marier, c'est certainement se mettre sous le même joug avec une autre personne. Donc, une personne croyante ne devrait pas épouser une personne non croyante. Un animal pur ne devait pas être attelé avec un animal impur pour labourer un champ. Un enfant de Dieu et un enfant du diable ne peuvent s'atteler à la même charrue et tirer dans la même direction pour atteindre un but commun. Un autre exemple d'une telle relation est de s'identifier à une institution. Si un homme est un professeur qui croit à la Bible et aux grandes vérités qu'elle enseigne, mais que l'institution où il enseigne est de théologie libérale ou moderniste, un tel homme devrait démissionner de son poste. En y travaillant, il est identifié à l'institution ainsi qu'à sa position et à ses activités. Il est associé d'une façon tangible à l'institution. Il est sous un joug étranger. Une collaboration temporaire et occasionnelle n'est pas un joug. Par contre, supposons qu'un évangéliste vienne en ville pour une période brève de 2 semaines. Peut-être que vous n'approuvez pas les méthodes de travail de cet évangéliste, mais il prêche la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, et Dieu bénit son ministère. Allez-vous travailler avec cette personne dont vous n'approuvez pas la manière de faire? Voici ce que disait J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes. Lorsque j'étais pasteur à Nashville, au Tennessee, un évangéliste vint en ville et, sans demander la permission au pasteur évangélique, monta ses tentes devant mon église et celle du pasteur d'une autre église évangélique avec qui j'étais lié d'amitié. Ensuite, il sollicita notre collaboration. J'étais hésitant de le faire à cause de la manière d'agir de cet homme. Il conduisait ses réunions de façon très informelle et désordonnée. Il pouvait interrompre son sermon pour faire une annonce qu'il avait omise ou pour prendre une offrande parce qu'il avait oublié de le faire au début de la réunion. Mon ami pasteur et moi, nous nous sommes consultés et nous avons discuté de sa requête de collaboration. Nous n'aimions pas les méthodes de travail de l'évangéliste, mais nous avons décidé de l'appuyer. Il était là seulement pour 2 semaines, et le Seigneur bénissait son ministère avec des conversions. Je ne me serais jamais associé à lui pour un ministère permanent à cause de ses méthodes de travail. Cependant, j'ai accepté de l'aider le temps de son séjour à Nashville. Nous n'étions pas sous le même joug. Notez ce que l'apôtre Paul faisait. Lorsqu'il arrivait dans une nouvelle ville, Paul se rendait toujours d'abord à la synagogue. Pouvez-vous penser à un endroit où il aurait pu avoir plus d'opposition qu'à la synagogue? Pourtant, c'est là que Paul allait en premier. Je ne le condamne pas pour avoir fait cela, parce que c'est le Seigneur qui le guidait dans ses démarches. Par contre, si Paul s'était attaché à une synagogue et s'il était devenu un rabbi et qu'il serait demeuré avec les Juifs, alors il aurait été sous le même joug qu'eux. Un joug est une alliance permanente ou de longue durée. Voyez-vous, Paul parlait d'être sous le joug d'une alliance permanente, tel le mariage, un partenariat commercial, obtenir un poste de professeur dans une institution ou encore de devenir membre d'une église. Ce verset qui dit de ne pas se mettre sous un joug étranger ne traite pas d'une campagne d'évangélisation de courte durée. De nombreuses personnes ne géreraient pas leur ministère de la même façon que nous, et Dieu les bénit abondamment. Nous pensons ce que Radio Espoir fait est bien, et nous allons continuer dans cette direction. Cependant, nous allons continuer d'avoir une communion fraternelle avec des personnes qui font les choses d'une façon différente, aussi longtemps qu'elles prêchent le même évangile que nous, et qu'elles croient que la Bible est la parole de Dieu. Lorsque Paul parle de ne pas se mettre sous un joug étranger, il parle de s'allier à des non-croyants. Cela est clair au verset suivant, verset 15. « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Je n'ai rien à faire avec les infidèles. Je ne m'allierai jamais avec eux d'une façon permanente, et j'espère que vous ne le faites pas. » Ne confondons pas cette question avec celle des relations avec les croyants qui fonctionnent d'une manière différente de nous. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui en qui Dieu habite ne peut pas traiter avec les idoles. Maintenant, Paul mentionne spécifiquement l'idolâtrie. Il ne peut y avoir d'entente entre le temple de Dieu et les idoles. Où est le temple de Dieu aujourd'hui? Le temple de Dieu est le corps des croyants. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Celui en qui Dieu habite ne peut pas traiter avec les idoles. Versets 17 et 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. « Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Paul encourage les chrétiens à se séparer des idoles et à se purifier. Le chrétien ne doit pas faire d'entente avec les idoles. Il doit se séparer du monde et de l'attitude du monde qui peut s'infiltrer même dans nos églises et dans la vie des croyants. Le croyant ne devrait rien toucher d'impur. En étudiant le livre de Josué, nous avons vu comment Josué et les Israélites ont pris la ville fortifiée de Jéricho par un acte de foi. Cependant, Achan prit des choses dévouées par interdit, c'est-à-dire il prit du butin pour lui, ce qu'avait interdit Dieu. Ensuite, Josué monta vers la petite ville d'Aï, confiant de la prendre facilement. En fait, il n'emmenait même pas tout le peuple avec lui. Josué et Israël furent défaits par la population de cette petite ville. Dieu demande que nous nous tenions loin de l'idolâtrie et que nous ne touchions pas à ce qui est impur. C'est ce que nous lisons dans 1 Pierre chapitre 4, les versets 1 à 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, affirmez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises d'un homme, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans les temps passés, à accomplir la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Nous pouvons nous croire séparés du monde sans l'être. De nombreux chrétiens considèrent qu'ils sont séparés du monde. Ils ne feraient pas telle ou telle chose qu'ils considèrent être un péché. Cependant, ils font de la médisance. Ils ont de véritables langues de vipère. Ils ne se rendent pas compte que cela est un comportement charnel et mondain. Leur comportement est impur. Ils se considèrent séparés du monde, mais ils doivent absolument porter seulement des vêtements du dernier cri, et ils n'hésitent pas à manger gloutonnement. Je ne veux pas juger qui que ce soit, et nous ne devrions pas nous condamner les uns les autres. Mais je pense que je dois souligner ces points, car il faut que nous soyons très prudents au sujet de ces choses. Il est très facile d'affirmer être sauvé par le Seigneur Jésus, d'affirmer que nous l'aimons, se considérer séparés du monde pour lui, alors qu'en fait, nous ne sommes pas véritablement séparés du monde et consacrés à lui. N'affirmons pas être chrétiens si nous ne sommes pas sincères. J. Vernon McGee racontait cette expérience. Lorsque j'ai décidé de quitter mon emploi à la banque pour devenir pasteur, le vice-président me convoqua à son bureau. C'était un homme qui ne craignait pas Dieu, et il blasphémait plus que quiconque. Je pense qu'il fut touché par mon annonce de retourner aux études pour devenir pasteur. Il m'invita à m'approcher du bureau et me dit, « Vernon, je veux te raconter une chose. » Voici ce qu'il me dit. Pendant la Première Guerre mondiale, il travaillait dans une autre banque avec un homme qui ne craignait pas Dieu et qui vivait dans la débauche. Cependant, cet homme était le soliste de son église. Un jour, le vice-président alla à l'église de son confrère de travail et il l'entendit chanter un solo intitulé « Jésus nous satisfait ». Après le chant, une dame dit au vice-président « Quelle chanson merveilleuse !» La voix semblait venir directement du ciel. Mais comme il connaissait son compagnon de travail, il savait que celui-ci ne tirait pas sa satisfaction d'une relation intime avec Dieu. Un jour, cette dame vint à la banque pour affaires. Le caissier, qui avait si bien chanté à l'église, n'arrivait pas dans ses chiffres alors qu'il faisait le rapport de sa caisse. Il se mit à blasphémer et à vider le ciel de tous les saints. La dame fut scandalisée et demanda à l'homme qui devait devenir un de mes patrons plus tard, « Qui est cet homme ?»« Madame, répondit le futur vice-président, c'est la voix qui semblait venir du ciel que vous avez entendue l'autre dimanche. » Le vice-président de la banque était un sceptique et un cynique parce qu'il avait vu un homme se disant chrétien et chanter « Jésus nous satisfait », alors qu'il savait que ce n'était pas dans son sauveur que le caissier trouvait satisfaction, mais plutôt dans le fond de sa bouteille. Il était un homme immoral et buveur qui n'employait que du langage grossier. Il savait que ce n'était pas le comportement d'un chrétien, et il était devenu cynique. Le vice-président mit sa main sur mon genou et dit, « Vernon, ne deviens pas prédicateur si tu n'es pas sincère. » Je n'ai jamais oublié cette conversation. Dieu dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Chers amis, n'affirmez pas être chrétien à moins d'être sincère. Ne dites pas que vous trouvez votre satisfaction dans une intimité avec le Seigneur Jésus, si ce n'est pas le cas. C'est ce dont Paul parle. Notez cette promesse glorieuse, et je vous accueillerai. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, » dit le Seigneur Tout-Puissant. « Ainsi vous serez des fils et des filles qui honoreraient votre Père Céleste. » Dieu veut entretenir une relation intime avec vous. Si vous êtes un croyant en Jésus-Christ, Dieu demeure toujours votre Père. Ne l'oubliez pas. Ici, Dieu affirme qu'il désire pouvoir se comporter comme un père avec vous. Il veut vous traiter comme son fils ou sa fille. Si vous êtes pour vivre comme les gens du monde, si vous n'êtes pas sincère, il devra vous discipliner. Mes amis, Dieu ne désire pas vous châtier continuellement. C'est pourquoi il vous demande de sortir du milieu d'eux et de ne pas toucher à ce qui est impur. Alors Dieu pourra entretenir une relation intime avec vous. Nous passons maintenant au chapitre 7. Permettez que je vous rappelle le contexte de cette lettre. Un homme de l'église de Corinthe s'était rendu coupable d'immoralité grossière. Il avait eu des relations avec l'épouse de son père. Dans sa première lettre, Paul avait adressé des reproches à l'église qui fermait les yeux sur ce péché. Alors que Paul écrit cette deuxième lettre, l'église avait discipliné le coupable. Il s'est déjà repenti après avoir confessé son péché. Cet homme pleurait à cause de son péché et il se sentait indigne de revenir à l'église. Paul réfère à cet incident. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dieu désire nous traiter comme un père traite son enfant. De quelle promesse parle Paul? Il réfère à celle à la fin du chapitre 6. Dieu dit que si nous lui obéissons, il sera un père pour nous, et nous serons ses fils et ses filles. Il se comportera comme un père avec nous. Cela ne signifie pas que nous perdons notre salut, si nous ne nous séparons pas du monde. Cela signifie que si nous ne nous purifions pas, Dieu ne pourra pas nous traiter comme un père aimerait traiter son enfant. Comment un père peut-il guider et conseiller un fils en rébellion contre lui? Comment un père peut-il aider quelqu'un qui considère toutes ses interventions comme une intrusion? Un homme demeure toujours le père de son fils, mais si le fils refuse son autorité, le père ne peut agir comme un père aimerait le faire avec son fils. Dieu veut nous traiter comme ses fils et ses filles. De nombreux chrétiens ne savent pas par expérience quel père merveilleux ils ont. Nous ne donnons pas à Dieu l'occasion de se manifester comme notre père. Comment pouvons-nous corriger cette situation? Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Comment pouvons-nous nous purifier? Nous ne pouvons pas purifier notre conscience de la culpabilité du péché. Je ne peux pas enlever une tache sur ma conscience qui crie coupable. Mais Dieu l'a fait par la mort de son Fils Jésus et par son sang versé à la croix. Après que nous avons été purifiés de nos péchés par le sang de Jésus, notre cœur doit être purifié quotidiennement de la contamination qui s'y ramasse chaque jour. Lorsque je reçois la parole par la foi et que je m'y soumets, je suis purifié de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est ce que le Seigneur Jésus disait lorsqu'il a affirmé « Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. » L'Évangile selon Jean chapitre 17, verset 17. La meilleure savonnette de l'univers est la parole de Dieu. Elle nous nettoie vraiment. Le Saint-Esprit nous permet de nous détacher du péché dans notre vie. Et rappelons-nous cette promesse. Faites dans 1 Jean, chapitre 1er, les versets 7 à 10. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Voici le remède à l'égard de notre culpabilité, la confession de nos péchés. À quand la dernière fois as-tu confessé ton péché à Dieu, afin qu'il puisse te laver, te purifier de toute souillure? Tu peux le faire maintenant. Il est prêt à t'accorder son grand pardon. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 2 Corinthiens, chapitre 7, les versets 1 à 16.
Merci, Régent. Oh, mes amis, combien on a pu voir aujourd'hui à quel point nous, les croyants, on doit avoir un comportement qui est selon ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Premièrement, par amour et respect envers Dieu, mais aussi afin de laisser un bon témoignage parmi les gens qui ne connaissent pas encore Dieu comme nous le connaissons, ceux qui n'ont pas encore une relation intime avec lui. Quand Régent nous a dit de ne pas affirmer être chrétien si nous ne sommes pas sincères, J'ai vu par les exemples qu'il nous a donnés à quel point notre témoignage parmi le monde peut avoir de l'impact, soit d'une manière positive ou d'une manière négative. Ce matin, j'étais en train de lire le livre intitulé « L'homme sur le chemin d'Emmaüs », écrit par John R. Cross. Et j'ai trouvé que Dieu avait un bon sens de l'humour quand je me suis mise à me préparer pour l'émission que vous entendez présentement. Dans son livre, l'auteur dit justement que lorsqu'on devient un croyant, notre relation avec Dieu est rétablie. Nous faisons désormais partie de la famille de Dieu et Dieu est notre Père. Donc, pour ce qui est de notre relation avec Dieu, notre destinée éternelle est réglée une fois pour toutes. On appartient à Dieu pour l'éternité. Par contre, même si on a maintenant une relation éternelle avec Dieu, il nous arrive encore de pécher. Et à ce moment-là, notre communion avec Dieu est rompue. Il explique que la relation ne peut pas être rompue, mais que la communion peut l'être, parce que le péché brise l'harmonie qui régnait entre nous et notre Père céleste. Donc, il y a une différence entre notre relation avec Dieu et notre communion avec lui. Je suis bien heureuse de savoir qu'il est impossible que ma relation soit brisée avec Dieu. Paul nous l'explique bien dans le 8e chapitre de son Épître aux Romains, au verset 38 et 39. Voici ce qu'il dit. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, ma relation ne cessera jamais avec mon Dieu merveilleux. Mais je sais que le péché attriste mon Dieu, qu'il attriste l'Esprit Saint qui est en moi. Je sais qu'il m'est possible de briser ma communion avec lui. Dieu m'aime, mais je sais qu'il déteste le péché. Alors, si je ne confesse pas mes péchés chaque jour, je sais que ma communion avec mon Papa du ciel sera rompue. Mais Jean nous dit au premier chapitre de sa première épître au verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ouf! Merci Seigneur! Mon frère, ma sœur, ta communion est-elle rompue avec ton Dieu? Confesse ton péché à Dieu. Il va te pardonner, il va te purifier et tu vas reprendre ta belle communion avec lui. Il te tend les bras en ce moment. Tu as la vie éternelle. Ne veux-tu pas goûter cette joie maintenant? Demande pardon à Dieu et reviens dans sa présence merveilleuse.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.